session sur le personnel humain par le Père Marie-Dominique Philippe le 5 juillet 2002 à Saint-Judard. Deuxième conférence.
Quelle est la place de la séduction dans l'amour? C'est très difficile à exprimer. Je crois que la séduction joue très souvent. Notre monde est un monde très sensible à l'art. Notre monde est un monde très sensible à la séduction. Il suffit de regarder les modes. Je ne suis pas spécialiste, mais on s'en aperçoit. Les modes, c'est de la séduction. On séduit. Et cette séduction, elle peut aller plus ou moins loin. Elle peut être plus ou moins profonde. Le beau séduit. Chaque fois que vous êtes devant quelque chose de beau, un beau spectacle, vous êtes séduit. Et quand justement c'est une beauté qui en vaut la peine, qui soit vraie, profonde, on peut être séduit assez longtemps. Quand c'est une beauté très extérieure, on est séduit momentanément. Et puis, on ne l'est plus du tout. Et quand vous regardez des vieilles modes, vous dites, c'est curieux que les gens aient été séduits par ça. Et sur le moment, ils étaient séduits et tout le monde faisait ça. La séduction joue énormément dans le cœur et dans l'intelligence des hommes. Et je dirais, dans notre monde actuel, la séduction passe avant la bonté. Le point de vue artistique domine. De toute façon, très étonnante, on est très très séduit par ça. Et c'est pour ça que c'est si important de voir dans l'éducation, dans notre formation, l'éducation, on a subi une certaine éducation, tous, hein, on a subi une certaine éducation. Et après, on est soi-même son éducateur. Et qu'à réfléchir sur votre vie, vous avez un certain type que vous vous êtes donné. Et on est à soi-même son éducateur. Et il y a une part de séduction, de choses qui vous séduisent. La jeunesse d'aujourd'hui est très prise par le point de vue artistique, la musique, la danse, le dessin, ça vous prend énormément. Ça fait une très grande part dans l'éducation. C'est pas mauvais. La séduction, quelqu'un qui n'est jamais séduit, il lui manque quelque chose quand même. être séduit par un très beau coucher de soleil. On est séduit. C'est beau. C'est grand. C'est une bonne séduction. Pas dangereuse. Elle est bonne. Alors vous ajoutez. Et puis il y a des séductions très dangereuses. Parce que elle vous mène à des précipices, à des rigolades. Le démon séduit admirablement. Et sait nous séduire. Alors, je dis le démon, au point de vue philosophique, le démon, au point de vue philosophique, c'est séduction de chaque époque. Chaque époque a ses séductions. Et je crois que notre époque a des séductions très fortes. Ce serait intéressant de les voir, de les analyser. Ça, chacun de nous pour faire ça. Donc, la séduction, c'est très bien. Parce que quelqu'un qui n'est jamais séduit, c'est triste. Il y a une sensibilité qui lui manque. Alors, il est dans le banal. Les choses viennent haut. Et c'est déjà vu. C'est vu. J'ai vu ça. Ça ne m'intéresse pas. Je dis, mais... C'est du déjà vu, du déjà vécu, des petits vieux. Parce que la séduction maintient la jeunesse. Si vous voulez vous maintenir jeune, restez sensible à la séduction. Et n'y demeurez pas. Restez sensible à l'addiction et dépassez-la. Vous dépassez la séduction par une attirance. Voyez, même dans la vie religieuse, on voit quelquefois des religieux qui sont, et des religieuses, c'est plus rare des religieuses peut-être, mais ça existe quand même. Où c'est déjà vu, placé. Alors, je dirais la séduction peut être, et elle devrait être, une disposition à éveiller l'amour. À accepter ou pas accepter cette séduction. Vous voyez, au fond, la séduction est le lieu de la tentation. Est-ce que toute tentation se fait dans une séduction. Être tenté, on est séduit. Et on a jugé que cette séduction était bonne ou mauvaise. Quand elle est bonne, elle nous conduit à l'amour. Quand elle est mauvaise, on la rejette. Est-elle toujours passionnelle, la séduction? Oui, elle est toujours sensible. Il y a des séductions intellectuelles, c'est vrai, par la découverte d'une relation, d'une intuition. Vous voyez, il y a des intuitions qui vous séduisent dans vos recherches intellectuelles. Vous dites, cette intuition, ah si c'était vrai, ça serait étonnant. Alors vous avez une espèce de séduction, vous êtes séduit intellectuellement, mais c'est pas de l'intellectuel métaphysique, hein. C'est d'intellectuel déjà très humain. Il y a des séductions mathématiques, hein, des intuitions mathématiques qui amènent à ces une espèce de séduction. On reste devant. Alors, on ne veut pas regarder si c'est vrai ou pas vrai, ça nous séduit. Et on est pris par ça et on veut rester dans la séduction. Peut-elle être une disposition à l'éveil d'un amour spirituel? Je crois qu'elle devrait être cela. Un éveil à une disposition d'ordre spirituel. Nos séductions, nos capacités de séduction doivent conduire à cela. Et la séduction est un monde essentiellement intermédiaire. On est séduit par le beau. Et il y a tout dans le beau. C'est un domaine très psychologique, ça, au fond. C'est un domaine très humain. C'est un lieu d'intermédiaire. Et c'est pour ça que c'est comme une disposition à l'éveil d'un amour spirituel. Alors, faites attention, hein. Au moment où la séduction joue, vous ne la considérez pas comme disposition, parce qu'elle ne vous prendrait pas, elle ne vous saisirait pas. Au moment où elle vous séduit, il y a toujours un certain absolu, mais instantané. Un absolu qui ne demeure pas. Il y a quelque chose qui vous déloge dans la séduction. Peut-on dire que le beau séduit alors que le bien attire ? La séduction regarde le beau, la lumière, très souvent. Et la bonté, elle n'attire. Alors, est-ce que pour être attiré par le bon, par la bonté, ce qui est agréable, ce qui est bon, il faut nécessairement passer par la séduction? Non. Pas nécessairement, mais très souvent. Point de vue éducatif, il faut se servir de la séduction comme d'un métaxu merveilleux. Métaxu, un intermédiaire merveilleux. On passe par là. Et en ce sens, elle est les dispositions. Qu'est-ce que le choix amical pour la personne? L'intérêt du choix. Le choix le plus profond, c'est le choix amical. Il porte sur l'ami. Parce que parmi les biens que j'expérimente, donc que je touche, que je vois, la personne humaine est sûrement le bien sensible, le plus grand. Quelque chose de très remarquable. La personne humaine, c'est le plus grand des biens sensibles. visible et spirituel en même temps. Alors, il y a les petits choix qu'on peut faire quand vous entrez dans une pâtisserie et que vous choisissez un gâteau. C'est pas un choix capital. C'est un choix amusant. Les enfants aiment ça. Il faut habituer à les faire choisir. Si ça fait, pour l'éducation, c'est très important. Tu choisis. Et pourquoi tu choisis ? Vous posez la question, pourquoi tu choisis ? Il faut apprendre à éduquer le choix. Alors, on choisit un bien sensible, un bien spirituel, on choisit la personne. Est-ce que vous allez me dire, est-ce qu'on choisit Dieu ? Lorsque vous découvrez Dieu, est-ce que vous pouvez le choisir ? Lorsque vous découvrez Dieu comme être premier, bonté essentielle, est-ce que Dieu s'impose ? Où est-ce que vous choisissez ? Vous voyez ? On choisit des moyens. Et parmi tous ces moyens, la personne. C'est le moyen principal, le plus grand. Mais Dieu n'est pas un moyen, il est une fin. Une fin m'attire. Et en m'attirant, s'impose. Au sens strict, je ne choisis pas Dieu. Je suis un imbécile si je me détourne de lui. Parce que je n'ai pas bien vu qu'il était le bien. Et devant le bien, je me laisse prendre. Alors, il se peut très bien que Dieu, qui est un Dieu caché, je ne saisis pas comme le bien. Et je le saisis comme un bien. Mais alors, ce n'est pas Dieu. Ça reste un Dieu caché que vous n'avez pas encore saisi. Mais quand votre intelligence et votre volonté saisit Dieu, l'être premier, le Créateur, il s'impose à vous. Et au point de vue surnaturel, vous choisissez le Christ. Au point de vue surnaturel, étant donné que la foi reste obscure, à cause de cette obscurité, ce n'est pas un bien évident. C'est pour ça que c'est si important de découvrir l'existence de Dieu. Parce que j'ai l'évidence que Dieu est l'être premier, le bien absolu, et mon bien. Tandis qu'au plan surnaturel, on est dans la foi. Qu'est-ce qui me dit que Jésus est mon bien ? C'est la foi. Vous voyez, c'est très intéressant ce point de vue-là. Vous choisissez Jésus comme votre sauveur. Et vous adorez Dieu comme l'auteur de votre vie, le créateur de votre âme. Alors, dans la mesure où l'existence de Dieu ne s'impose pas à vous comme une évidence, vous reprenez et vous retombez dans le point de vue de la foi. Beaucoup de personnes croient que Dieu existe et croient que Dieu est créateur. Ils ne sont pas arrivés à l'évidence du mystère de Dieu qui s'impose à moi comme la plus grande évidence. Le psaume dit très bien ça. « Incipiens dixit in corde suo non est Deus. » Je traduis. « Incipiens, l'insensé, celui qui a perdu son intelligence, le fou, incipiens. Dixit dit dans son cœur, pas dans son intelligence. » Il dit dans son cœur, Dieu n'existe pas. C'est très fort cette parole, du psaume. Incipiens. Il faut être un insensé pour dire dans son cœur que Dieu n'existe pas. Alors, cet insensé, souvent, il dit ça parce que autour de lui, il est dans un milieu athée. C'est à cause de ça. C'est pas du tout un choix libre. Alors, il n'est pas incipiens. Il est tout simplement un mouton de panurge. Beaucoup. Un mouton de panurge. Parce que le vent va faire ça. Suffrage universel, Dieu n'existe pas. Vous feriez ça au suffrage universel de la France. Est-ce que Dieu passerait? Ou est-ce qu'il ne passerait pas? Beaucoup de gens qui sont comme ça. Tout le monde dit ça, oui, on suit. C'est ça que s'appelle mouton de panurge, on suit. On suit tout le temps. On n'opte pas, on ne choisit pas vraiment personnellement. On se laisse porter. Le choix amical pour une personne. C'est vraiment là où le choix est le plus lui-même. Je suis libre, mais totalement libre de choisir un ami. Et je te choisis toi comme ami, je suis tout à fait libre. Il ne s'impose pas. Elle pourrait dire, ah mais quand même, il s'est imposé. Il a été si séduisant. Il a été si charmant. Il est si extraordinaire. Il est tellement... Ah, extraordinaire. Alors là, on est séduit. Mais alors, est-ce que c'est un choix? Vous suivez vos séductions? Quelqu'un me disait, il y a beaucoup de mariages qui ne reposent pas sur un choix libre, qui reposent sur une séduction. La séduction du sculpteur en disant, oh, regardez cette déesse. Parce que c'était le type grec. Alors, il était déjà marié, lui. Et comme il était bon chrétien, il n'a pas eu le choix.
séduction. Et il y a beaucoup de séductions comme ça. J'ai refusé une fois dans ma vie de bénir un mariage. J'ai dit non. C'était quelqu'un qui se mariait pour convertir son épouse. Je dis, on ne se marie pas pour convertir son épouse. On se marie parce qu'on l'aime. Ah. On se marie parce qu'on l'aime. Et se servir du mariage pour convertir quelqu'un. Alors j'ai refusé le mariage, sans rien dire. Le curé l'a accepté. Un an après, ils sont venus tous les deux. Il dit, vous aviez raison. On va se quitter. On ne se marie pas pour convertir quelqu'un. En seconde raison, j'aime follement cette jeune fille. Ah, je l'aime vraiment. Ah. Je crois qu'en l'aimant, elle se convertira. Parce que seul inconvénient, c'est qu'elle ne croit à rien du tout. Alors, c'est un motif second. C'est pas le motif premier. Se marier pour convertir quelqu'un, le mariage n'est pas fait pour ça en premier lieu. Il faut respecter. En second lieu, ah, très bien, vous êtes vous un fervent catholique, c'est très très bien. Vous allez faire de votre épouse une fervente catholique. Après un certain temps, hein. Aimez-la d'abord. Et en l'aimant, elle connaîtra un chrétien. Et elle aimera un chrétien. Et en aimant un chrétien, elle cherchera à savoir ce qu'il est. Oui, pour respecter les finalités, c'est ça le cœur pur. Hein. C'est de respecter les finalités. Le mariage n'est pas fait comme un moyen de conversion. Qu'est-ce que le choix amical ? C'est choisir quelqu'un plus que tous les autres. Dans le choix, il y a toujours cette comparaison. Je t'aime plus que tous les autres. C'est toi que j'aime. Et tous les autres que j'aime, devant toi, s'inclinent. Par rapport à moi, c'est toi que j'aime. Donc dans le choix est un acte à la fois d'intelligence et du cœur. Quand je choisis une personne pour être mon ami, ça relève du cœur et de l'intelligence. L'intelligence est consciente que cette personne, cet ami que je choisis pour être ami est pour moi très unique. Quelqu'un que vraiment il m'impressionne. Et il passe devant tous les autres. Alors, ce choix amical est d'ordre intellectuel et d'ordre affectif. Présuppose l'intelligence de la personne, qui présuppose l'amour, qui me séduit, qui me prend. Qu'est-ce que le regard métaphysique apporte sur le choix par rapport au regard éthique ? Ah. Au fond, on veut dire, Est-ce que le choix amical est d'ordre éthique? Pour Aristote, le choix amical est au-dessus du point de vue moral. C'est un bien personnel que j'aime. Mais, ajoutons tout de suite, que le conditionnement éthique intervient. Je connais, j'ai connu un garçon qui m'a avoué son problème. Il aimait beaucoup telle jeune fille, mais elle n'était pas du tout ce que lui était comme milieu familial, comme milieu social, comme milieu culturel, tout à fait différent. Alors, le choix de l'époux pour l'épouse n'est pas le même choix qu'un ami pour son ami. Vous voyez ? Il y a des éléments qui sont seconds, mais qui sont essentiels. On choisit un ami, un intellectuel choisit un ami, un autre intellectuel, choix de philosophe. Tandis que l'époux ou l'épouse, on choisit aussi, si on est conscient, une mère pour son enfant. Et c'est pas la même chose d'être séduit par quelqu'un qui est vraiment ce qu'on aimerait le mieux, mais choisir une mère pour celui qui sera mon enfant. Il y a des éléments nouveaux qui s'ajoutent comme ça. C'est très curieux du reste. Parce que le choix d'un ami et finalisé, ça me finalise, je touche quelque chose qui sera mon bien, et je suis dans des circonstances telles que je sais, s'il a choisi, ben on fera un foyer. Et j'ai connu comme ça, quand on s'occupe des étudiants, on connaît tous ces cas-là. Et souvent, les étudiants viennent vous demander conseil. Et c'est très difficile. Mais je me souviens très bien quelqu'un que j'aimais profondément, comme au point de vue philosophique. Un très bon étudiant de philosophie. Il aimait deux jeunes filles. Il y en avait deux, il fallait bien choisir. Hein. Alors, je m'intéressais beaucoup à voir comment il choisissait. parce que ça ne m'est jamais arrivé. Alors ça m'a intéressé de voir l'autre qui choisissait et de comprendre. Et c'était très étonnant parce que c'était un garçon très intelligent, très fin, très capable d'aimer très profondément, un très bon chrétien. Et tous ces éléments, ils venaient par rapport à un choix. Bon, la philosophie se fait à partir de l'expérience. Et c'est important de voir quelqu'un qu'on a connu, qu'on connaît, discuter sur le choix de ces deux jeunes filles que je connaissais, parce qu'elles étaient aussi étudiantes de philosophie, et de voir comment ils me posaient le problème. Et comment, au point de vue philosophique, le prêtre doit être très discret, parce que le choix doit être personnel. Il ne faut pas qu'on choisisse parce que ce père que j'aime, ah, il a dit qu'il choisirait lui. Je n'ai jamais dit ça parce que ce serait faux. On n'a choisi ni l'un ni l'autre. Donc le choix devait venir de lui. Et surtout pas sans intermédiaire. Surtout pas avec un intermédiaire. Qui aurait été l'intermédiaire du curé, du prêtre, du religieux. Il me disait de temps en temps, « Vous avez grande expérience. » Je dis, « Non, j'en ai aucune. » On a une autre expérience, savoir si l'une était plus intelligente que l'autre. Mais on n'épouse pas la plus intelligente nécessairement. C'est pour vous montrer que là, on touche un domaine personnel où la philosophie vous aide, vous éclaire, c'est sûr. Mais en dernier lieu, c'est la personne qui choisit. Et il ne faut surtout pas anticiper. C'est très mal hein, d'anticiper. Et c'est pas vrai. Il faut laisser la personne choisir. C'est un acte personnel. On peut conseiller, mais c'est elle qui choisit. Et ces discussions montrent bien ce que c'est que choisir personnellement. La vocation, c'est une chose personnelle. Le choix de l'épouse, c'est une chose personnelle. Le choix d'un ami, c'est une chose personnelle. Alors, on peut... C'est ça le regard métaphysique. C'est de comprendre qu'on ne peut jamais choisir pour une personne. On peut l'aider à choisir. On peut l'éclairer, mais le choix personnel est personnel. On voit en éthique que le choix est un acte d'amour et d'intelligence. Est-ce pour cela que le choix de l'ami est un certain sommet de la personne, un certain sommet humain? C'est très grand de choisir un ami. C'est pas l'acte principal de notre vie, mais c'est un acte très important. Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Quand on a affaire à des petits garçons, des petites filles qui sont petites, on peut choisir pour eux, mais pas quand ils arrivent à un âge 17-18 ans. Alors, s'ils n'ont pas beaucoup de tempérament, ils vous demandent de choisir pour eux. Il faut leur dire, je fais ça momentanément, mais j'espère bien que dans quelques années, tu pourras choisir. Il faut avoir suffisamment d'expérience humaine pour porter vraiment sur un choix, réaliser un choix. Oui, le choix et la contemplation, le choix dépasse, c'est le fruit de la prudence, et c'est très grand, c'est très beau. Et la contemplation, c'est un sommet. Et je crois que c'est très important de comprendre que tout choix est un acte personnel et il faut respecter qu'on prenne ses responsabilités. Éduquer, ce n'est pas supprimer la responsabilité. Éduquer, c'est ouvrir les yeux pour qu'on voit la difficulté. Mais c'est mettre à nu toutes les responsabilités. C'est les montrer. Mais c'est surtout pas supprimer les responsabilités. Parce que si vous croyez que éduquer, c'est supprimer les responsabilités, vous n'éduquerez jamais des personnes. Parce que c'est dans le choix amical que la personne se noue. C'est dans la contemplation à l'égard de Dieu que le choix se noue. On peut, alors, ça peut très bien arriver, qu'on choisisse un âge. On a 20 ans, 24 ans, 25 ans. Et puis quand on arrive à 40 ans, on dit, c'est curieux ce choix que j'ai fait. Oui, alors, c'est là le gros problème. Hein. L'ami de 24 ans n'est pas toujours l'ami de 55 ans. Alors, certaines personnes qui ne sont pas très chrétiennes disent, j'ai entendu, c'est pour ça que je le dis, c'est réel. Des hommes de 40 ans, 45 ans, disent oui, c'était mon amour de 20 ans, c'est plus mon amour de 50 ans. C'est pour ça que si facilement, il y a des fuites hein, dans le mariage. On se donne le droit. Alors, vous voyez, il y a quelque chose de très important. Vous, dans votre personnalité, vous savez qu'à 25 ans, vous avez fait telle chose. Peut-être qu'à 50 ans, ou à 45 ans, vous ne feriez pas les mêmes choses. Cela existe pour les affaires et existe également pour le choix amical, le choix de l'épouse. Est-ce que c'est vrai? Alors, à ce moment-là, il y a un système, il y a la relecture. Oh. Je m'abuse toujours beaucoup. Quand un psychologue, il a fait une relecture et il a vu qu'il n'était pas marié. Oh là là! Je vous affirme, hein, une relecture. Une relecture, on en fait ce qu'on veut. Parce qu'elle est commandée par quelque chose. Et c'est une expérimentation. Ce n'est pas une expérience toute simple. On ne peut pas faire de relecture. On peut faire une relecture en sachant qu'elle est partielle et que les décisions personnelles qu'on a prises, pas des décisions par rapport au métier, par rapport à la fonction, ça c'est très différent. Là, les relectures peuvent être vraies. Mais par rapport à l'amitié, par rapport à l'amour personnel, non. Les relectures peuvent nous montrer qu'à certains moments, on a été trop vite. Mais vous ne pouvez pas revivre à 45 ans ce que vous avez vécu en toute vérité à 25 ans. Impossible. C'est le tragique d'aujourd'hui, ça. Dans l'ordre de l'éducation, on croit que on fait une relecture, j'entends ça souvent. Et alors, on aboutit à des résultats catastrophiques. Parce qu'on croit qu'on a plusieurs vies. Non, on n'a qu'une vie. On n'en a pas plusieurs. Alors, ce qu'on peut faire, ah oui, ça oui, voir que à un certain moment, on n'a plus véritablement aimé. On a été négligent. On s'est laissé séduire. Ah, ça oui. C'est pas une relecture, ça. C'est une relecture. Oui, c'est vrai. C'est une relecture, mais c'est une relecture beaucoup plus riche. Parce que on voit qu'on est plus fidèle au premier amour. Vous savez, il y a une phrase dans l'écriture, hein. Et le philosophe a le droit de regarder ça. L'écriture est un livre très intelligent. Il y a une phrase dans l'Apocalypse, l'église d'Éphèse. Un seul défaut de l'église d'Éphèse. Tu as perdu le sens de ton premier amour. Ah. Ah. Le premier amour. C'est quelque chose d'infiniment précieux qu'on doit toujours cultiver. Le premier amour au sens fort, hein. On a décidé d'aimer quelqu'un et de l'aimer pour sa vie et de l'aimer pour toujours. C'est très fort, ça. Tu as perdu ton premier amour. Et ce premier amour était beaucoup plus vrai que le second qui relie ça. Le premier amour était vrai, était juste, et on a perdu ça. Alors ça c'est vrai, si la relecture est pour redonner sens à ce premier amour, ah ça oui, on est fidèle à un premier amour. Et la fidélité à un premier amour nous rend heureux, nous rend fiers de nous-mêmes, contents de nous-mêmes, paisibles. Alors vous voyez, ça intervient pas du moral. Parce que très souvent, dans la relecture, on quitte le point de vue moral, sa responsabilité. Et on ne regarde que la responsabilité des autres. C'est très curieux. J'attire votre attention là-dessus. Parce qu'il faut pas tomber dans le panneau. C'est, c'est très complexe. Hein. Ce que je dis ici, c'est quelque chose de très rapide et ça ne résout pas le problème. Hein. C'est plus complexe, mais il faut être attentif. Vous voyez, la relecture, c'est les souvenirs que vous avez, vous essayez de revenir à ça. Mais vous savez très bien qu'on se souvient très bien de tout ce qui est en faveur de nous. Toujours. Tout ce qui est en faveur de nous, pour notre gloire, on s'en souvient très bien. Les personnes importantes dans notre vie, on se souvient très bien quand on l'a rencontré. Mais les choses moins importantes, on les occulte très facilement. On les cache. Alors, vous voyez, c'est pour ça que c'est très délicat. C'est très délicat. Il faut vraiment un très grand psychologue. Qu'est-ce qui, dans l'ami, me permet de dépasser l'ami pour regarder l'existence de Dieu, pour rejoindre l'existence de Dieu, pour m'inquiéter de l'existence de Dieu? Est-ce l'intelligence de l'ami? Quand j'aime quelqu'un qui est mon ami, je distingue. Il faut faire cette distinction entre l'amour que j'ai pour lui et ce qu'il est. Très facilement, vous habituez à l'aimer. Et vous habituant à l'aimer, il y a une nouvelle dimension dans l'amour. Qui n'est plus aussi direct. La fidélité, ou le manque de fidélité, l'intérêt que je porte à lui, ou le manque d'intérêt que je porte à lui. L'ami, c'est celui qui m'attire. L'ami dépasse mon amour pour lui. Et vous pouvez comprendre que l'ami dépasse l'amour que vous avez pour lui. Parce que l'amour que vous avez pour lui vient de son attraction. Mais son attraction, elle change. Elle est multiple. Et donc, je vois la différence entre son amabilité, son attraction sur moi et ce que j'en fais. Et ceci, c'est réciproque dans l'amitié. C'est aussi bien l'ami que moi. Et quand je vois cette différence entre les deux, je vois que l'ami est pour moi un bien qui m'attire. Et qui est capable de m'attirer, mais comme mon attraction, mon amour que j'ai pour lui, n'est pas adéquat à sa bonté. Sa bonté est toujours plus que l'attraction que j'ai pour lui. Ça, c'était une grande trouvaille qu'Aristote a fait en face de Platon. Et c'est la grande trouvaille qu'on devrait faire aujourd'hui en face de Hegel. Hegel se considère comme Dieu parce qu'il confond l'amour qu'il a pour Dieu et Dieu. Et c'est pas la même chose. Vous devez faire toujours la distinction entre l'amour que vous avez pour votre ami et l'ami. Quand vous confondez l'amour que vous avez pour lui et l'ami, vous arrivez à vous identifier à l'ami. Ah, je l'aime tellement que je le mange. Je le connais. Et vous mesurez votre ami. Et votre ami ne vous mesure plus. Et alors, à ce moment-là, je me contente et m'enferme dans l'amour que j'ai pour mon ami. Et je ne bouge plus. Et je ne progresse plus. Tandis qu'au contraire, si je vois que l'amour que j'ai pour lui atteint quelque chose de son amabilité, et son amabilité est autrement plus forte, plus grande que l'amour que j'ai pour lui. Alors à ce moment-là, je me pose la question, cette attraction de l'ami sur moi, qui provient de lui, s'identifie-t-elle à son être ? Il est comme ça. Où y a-t-il un être chez qui l'amour et l'amitié sont identiques? D'où lui vient cette force d'attraction? Il est un être limité comme moi. Et son attraction sur moi m'attire entièrement. C'est parce que, justement, son être limité vient d'un être qui n'est pas limité. Et il est en quelque sorte pour moi, comme le représentant de cet être illimité. L'amour, l'effet de l'amabilité, montre que l'ami n'est pas premier dans l'ordre de l'amour et qu'il vient d'un être qui, lui, et premier en qui l'amabilité et l'amour ne font qu'un. Cette découverte magnifique, étonnante de Dieu. Enfin, pourrez-vous préciser pourquoi le corps est un conditionnement substantiel de la personne? N'est-ce pas contradictoire dans les termes? Je sais. C'est exprès que c'est contradictoire, c'est pour vous faire sauter. Le corps est un conditionnement substantiel, parce que ce corps m'accompagne jusqu'à la mort. Il est substantiel, il est essentiel, et pourtant il n'est pas ma finalité, mais il me conditionne. C'est ce qui est tout à fait particulier à l'homme, ça, et à la femme. C'est que le corps n'est pas mon être, et pourtant, il est mon être. Votre corps, c'est votre corps, il existe. C'est votre existence dans votre corps, et pourtant, ce n'est pas la partie principale. Alors le corps est essentiel, mais il est second. C'est peut-être ce qu'il faudrait dire. Il est second. Il est substantiel, mais second. Et second d'une manière telle qu'il conditionne toutes mes activités, qu'il conditionne toute ma vie. Je peux le dépasser par l'abstraction, Mais même dans ce dépassement, il reste toujours là, présent. Je le dépasse pour découvrir ce qui est au-dessus de lui. Mais je ne peux le dépasser qu'en m'appuyant sur lui. Je ne peux pas le nier. Il est substantiel et il n'est qu'un conditionnement. Vous avez dit que l'intelligence n'est pas atteinte par le péché originel. Qu'en est-il de la volonté ? La volonté, on le sait bien, les passions sont si fortes que souvent notre pauvre volonté, à cause de la passion, s'incline, elle s'efface. Parce que nos passions sont véhémentes. Mais l'intelligence n'est pas atteinte par le péché. Elle regarde toujours l'être. Elle est faite pour connaître l'être. Mais le conditionnement de ma vie intellectuelle, qui est mon corps, qui est ma sensibilité, qui est mon imagination,